Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau, interniste à l'UCPQ. Bienvenue à ce nouvel épisode d'une série de balados destinés aux professionnels œuvrant en diabète et portant sur le guide de pratique de l'ADA en 2024 en diabète. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce que préconise l'ADA pour le traitement de l'obésité et le contrôle du poids chez le diabétique. Le tout est tiré de la publication Standard of Care on Diabetes, publiée dans Diabetes Care en janvier 2024, dans le chapitre 8. Vous pouvez télécharger de façon légale le texte en PDF de ce chapitre en utilisant le lien contenu dans la description de ce balado. Mon invité est Fanny Lajeunesse-Tremp, interniste à l'UCPQ et fellow en obésité. Alors bonjour Fanny, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours et de votre intérêt professionnel pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore?
Oui, tout à fait. Bonjour Claude. Donc, je m'appelle Fanny Lajeunesse-Tremp. Je suis interniste générale et j'ai fait un fellow en obésité au King's College of London. Je suis aussi chercheur. J'ai fait un PhD en nutrition dans le domaine de l'obésité à l'Université Laval.
Donc, je participe, moi, au congrès annuel de l'ADA depuis 35 ans. Ce qui me frappe depuis à peu près 2 ans, c'est de voir comment l'obésité prend une place prépondérante dans ce congrès, tant au plan des sciences de base que dans les parties plus cliniques du meeting. Quelles sont les recommandations de l'ADA en 2024 pour la perte de poids chez le patient diabétique?
Selon l'ADA, on recommande d'abord une perte de poids là, qui serait soutenue entre 3 et 7 chez le patient qui est diabétique. Puis ça, c'est basé sur des nombreuses études, là, dont l'étude Lookahead avec le bras diabétique qui a été publiée en 2013-2014. La perte de poids va favoriser l'amélioration de la glycémie, de la tension artérielle, des valeurs lipidiques chez les prédiabétiques et elle diminue aussi le risque de progresser du prédiabète vers le diabète.
Mais cette perte de poids me semble modeste. Il me semble aussi que de viser une perte de poids soutenue de plus de 10% pourrait s'accompagner de bénéfices supplémentaires.
C'est tout à fait vrai. La perte de poids de plus de 10% va conférer des bénéfices cliniques au niveau cardiovasculaire. On a des études qui nous montrent que ça diminue aussi la stéatohépatite. Ça va diminuer l'inflammation reliée à la présence d'un excès de tissu adipeux. Puis c'est une composante fondamentale dans le traitement de l'apnée du sommeil.
Donc, l'ADA recommande donc une perte de poids soutenue de plus de 5% chez les diabétiques de type 2 en surpoids. C'est une recommandation de niveau B. Pour réaliser cette perte de poids, on favorise une intervention multidisciplinaire qui comprend du counseling, au moins 16 séances en plus de 6 mois, avec un focus sur la nutrition, l'activité courante et les changements des habitudes de vie et un déficit des apports caloriques de moins de 500 à 700 calories par jour. Et ça, c'est une recommandation de classe A. Donc, c'est une recommandation de classe A nécessite quand même l'existence d'études positives randomisées et contrôlées. Donc, l'étude Lookahead que vous m'avez mentionné un peu plus tôt semble la pierre angulaire de cette recommandation.
Oui, tout à fait. Dans le fond, l'étude Lookahead, comme j'ai dit, a été publiée en 2013 dans le New England Journal of Medicine. Puis, c'était une étude intensive interventionnelle qui incluait 16 centres aux États-Unis et plus de 5000 patients là, qui étaient atteints de surpoids, d'obésité et de diabète de type 2. Dans Lookahead, il y avait une intervention intensive visant des changements des habitudes de vie. Puis ça avait été offert à des patients qui étaient atteints de diabète de type 2 avec du surpoids ou de l'obésité. Le groupe interventionnel était soumis à un programme structuré en activité physique avec des rencontres à peu près aux semaines. Donc, on parle de 175 minutes d'exercice modéré. Et un régime haut en protéines visant entre 1200 et 1800 calories par jour. Il y avait aussi des sessions d'éducation sur le diabète pendant les 4 premières années d'intervention. Fait que l'étude Lookahead suivait les patients jusqu'à 8 ans, puis on voyait une perte de poids de 4,8%. Puis cette perte de poids était soutenue jusqu'à plus de 5 ans chez une bonne partie des sujets, là. Il y avait 50% du groupe d'intervention qui ont été capables de maintenir une perte de poids de 5% pendant les 8 ans, même après l'intervention, puis 27% ont été capables de maintenir leur perte de poids. De poids au-dessus de 10 %. Fait que ce qu'on comprend, c'est que l'étude Lookahead a fait la preuve qu'il est possible, avec des interventions non pharmacologiques, de réduire le poids à long terme et de le maintenir. Ça l'aidait aussi à améliorer les facteurs de risque comme l'HbA1c, la pression systolique, puis ça diminuait le nombre de médicaments pour des raisons cardio-métaboliques qui étaient pris par les patients.
Donc, c'était probablement la première bonne étude très, très bien faite. On a investi beaucoup d'argent, mais Lookahead n'a pas pu démontrer une baisse significative des événements cardiovasculaires malgré tout.
Non, tout à fait, Claude. Il n'y avait pas de différence dans Lookahead pour les AVC, les infarctus du myocarde non fatal, les hospitalisations pour l'angine ou même sur les décès là, d'origine cardiovasculaire. Il y avait un sous-groupe de patients qui montrait qu'à 8 ans, une baisse de plus de 10 % entraînait des bénéfices sur la qualité de vie, la santé sexuelle, la mobilité, mais pas au niveau des outcomes cardiovasculaires bruts qui étaient regardés dans Lookahead.
Somme toute, l'intervention non pharmacologique demeure toujours de mise chez le diabétique. Mais il y a quand même de la place maintenant et de plus en plus pour une intervention de prise en charge pharmacologique dans l'obésité pour répondre à nos obligations cardiovasculaires.
Oui, tout à fait. Je pense que l'idée, c'est d'avoir deux types d'interventions, donc des interventions non pharmacologiques et des interventions pharmacologiques. Si on s'intéresse juste aux non pharmacologiques, ben je pense que de se calquer à l'étude Lookahead, c'est une bonne idée. On vise 16 séances d'intervention au moins 6 mois avec des déficits caloriques de 500 à 700 calories par jour.
Mais au Québec, le type d'intervention, bien que préconisé, semble un peu utopique. Et dans bien des régions, il semble difficile d'offrir des séances de counseling en présentiel. Météo, distance, le coût, les intervenants qui sont pas toujours disponibles. Mais est-ce qu'on peut offrir du counseling digital?
C'est brièvement mentionné là, dans le chapitre de l'ADA. L'ADA semble en faveur du counseling digital, mais je pense que la preuve de l'efficacité d'un suivi à distance pour des interventions non pharmacologiques là, doit être démontrée encore par des études rigoureuses. D'ailleurs, il s'agit d'une recommandation de classe E là, dans l'ADA en ce moment d'offrir un counseling digital.
Donc, on peut l'offrir quand on est mal pris, mais on a besoin quand même peut-être de rencontres au moins personnalisées, digitales ou encore mieux en présent. Mais une fois que la perte de poids est obtenue, il est quand même nécessaire d'investir dans un suivi structuré à long terme pour maintenir les bénéfices.
Oui, tout à fait. Dans le fond, ce qui est démontré comme efficace pour le suivi à long terme, c'est d'offrir un suivi de plus d'un an avec au moins un contact mensuel par un intervenant de la santé. La mesure du poids hebdomadaire est conseillée, puis un counseling en nutrition et en exercice. Là. Puis on va chercher un counseling en exercice d'intensité modérée à élevée pour entre 200 et 300 minutes par semaine, divisé en plusieurs séances.
Certains centres font la promotion diabète de la diète très basse en calories. Je pense au centre EPIC, entre autres à Montréal. Qu'est-ce que pense l'ADA pour nos diabétiques sur le sujet?
On le sait qu'une diète là, qui est faible en calories, on parle de 800 à 1000 calories par jour, avec des apports qui sont riches en protéines ou encore l'utilisation de repas de substitution, est associée à une perte de poids plus rapide puis à une amélioration plus rapide des paramètres de la glycémie. Il y avait d'ailleurs dans l'étude Look Ahead la possibilité pour les patients d'utiliser des repas de substitution pour baisser leurs apports en calories. Il y a eu aussi l'étude Direct, qui était une étude randomisée contrôlée de première ligne sur la prise en charge nutritionnelle du diabète de type 2 puis qui montrait des bénéfices là, en perte de poids pour les repas de substitution sur 3 mois. Ça améliorerait aussi le contrôle du diabète. Fait que quand on regarde les guidelines de l'ADA en ce moment, l'ADA recommande que ça soit proposé, mais seulement par des centres spécialisés avec un monitoring clinique serré, puis pour une durée qui est au moins de 3 mois. Là, on propose pas ça pour une semaine ou deux. Il faut quand même être conscient des risques là, qui sont des désordres électrolytiques, de la fatigue, des arythmies, etc. Faut aussi prendre en compte que le regain de poids est très fréquent suite à ce genre de diète sévère hypocalorique. Donc, ça doit être pairé avec des interventions à plus long terme.
Mais quand même, la diète basse en calories semble avoir tout de même sa place pour la préparation des patients en chirurgie bariatrique.
C'est tout à fait vrai, puis c'est pour ça que des cliniciens de première ligne vont en avoir entendu parler parfois dans des centres tertiaires. Elle peut être recommandée, mais c'est surtout pour potentialiser la perte de poids puis le contrôle du diabète avant la chirurgie chez des patients qui sont en situation d'obésité très sévère. Ça va être surtout recommandé pour des raisons techniques par les chirurgiens, parce qu'on sait que les diètes hypocaloriques sévères vont diminuer transitoirement le volume du foie, donc améliorer les techniques chirurgicales. Fait que c'est un peu dans cette visée-là que c'est recommandé généralement dans les centres tertiaires.
Donc, on a parlé de diète, on a parlé d'exercice, de suivi dans des cliniques multi. Maintenant, parlons de la place qui s'impose de plus en plus du traitement pharmacologique en obésité, même pour l'ADA.
Oui, donc l'ADA recommande d'abord de revoir l'ensemble de la médication que le patient prend qui peuvent accentuer le surpoids. C'est quelque chose qu'on fait fréquemment en clinique de médecine bariatrique. On parle d'antidépresseurs, de corticostéroïdes, du gabapentin, le pregabalin, etc. Les antipsychotiques également. On peut essayer de voir s'il est possible de les cesser ou de les substituer pour des médicaments qui sont neutres pour le poids. Chez le diabétique en surpoids, l'ADA va favoriser des médicaments qui sont plutôt neutres pour le poids, comme la metformine ou des inhibiteurs de DPP-4, ou des médicaments qui favorisent en plus le contrôle de la glycémie et la perte de poids comme les agonistes du GLP-1 ou les inhibiteurs de SGLT2. L'ADA se positionne aussi en disant d'éviter des médicaments qui seraient associés avec un gain de poids comme l'insuline ou les sulfonylureas chez le patient diabétique. Ça, c'est des recommandations de grade B.
Il y a quand même une recommandation de l'ADA de grade A de considérer l'utilisation de la tirzépatide et de la semaglutide dans le suivi, dans le traitement des patients diabétiques avec obésité. Une telle recommandation n'est possible parce que des études de grande envergure qui ont été publiées récemment en obésité et en diabète. En quelques mots, Fanny, pour nos auditeurs moins familiers avec le développement d'obésité et en diabète, pourriez-vous nous glisser quelques mots sur les études phares qui soutiennent l'utilisation des médicaments?
Tout à fait. Donc, le système à glucides, on le connaît pour le traitement du diabète, c'est prescrit usuellement. Le remboursement de ce médicament-là, on se rappelle, là, c'est possible échec à la metformine en ajout avec un sulfonylurée, puis par échec au niveau de la RAMQ, là, on entend une non-atteinte du niveau d'HbA1c qu'on voudrait pour notre patient en fonction de ses comorbidités ou si le patient ne va pas tolérer la sulfonylurée. En ce qui a trait aux grandes études, du côté des agonistes des GLP-1, la système à glucides, là, ils ont fait leur preuve au niveau de la perte de poids et du contrôle glycémique avec les études STEP en prévention primaire. Puis il y avait aussi des études, dans les études STEP, on étudie les complications cardiovasculaires chez le diabétique. On a été capable de voir une diminution des complications cardiovasculaires en prévention secondaire aussi avec les études SUSTAIN qui incluaient le semaglutide. Et récemment, une efficacité même pour réduire l'albuminurie chez les patients qui sont diabétiques avec des atteintes rénales. Donc oui, on a plusieurs études fortes là, qui regardent les différentes complications en lien avec le diabète. Côté du tirzepatide, pour ceux qui le connaissent moins, c'est un nouvel antagoniste double, donc qui cible les récepteurs à GLP-1 et les récepteurs à GIP, gastric inhibitory polypeptide. Le programme d'études SURMONT 1 et 2 a démontré des pertes de poids super intéressantes avec la tirzepatide. Là, c'est impressionnant. On parle de 11% par rapport au placebo, avec une baisse du HbA1c de moins 1,5% après 72 semaines de traitement. Là, pour des doses, on parle de 10 à 15 mg de tirzepatide par jour.
Chez les patients diabétiques qui n'atteignent pas les cibles concernant le poids, l'ADA va émettre jusqu'à une recommandation visant à diminuer l'inertie clinique et suggère fortement de recourir à la médication anti-obésité ou à la chirurgie bariatrique, recommandation de classe A, en plus du maintien des habitudes, changement des habitudes de vie. Donc, en 2024, l'ADA intègre la chirurgie bariatrique comme un traitement nécessaire et efficace dans le traitement du diabète.
Oui, tout à fait, Claude. Je me positionne de la même façon. On devrait considérer la chirurgie bariatrique chez les patients avec un IMC maintenant au-dessus de 30 pour les diabétiques de type 2 ou au-dessus de 27,5 chez les gens avec des origines ethniques différentes comme asiatiques, origines du Maghreb, du Moyen-Orient, etc. C'est des recommandations de classe A. C'est d'ailleurs des recommandations qui se calquent sur les nouvelles recommandations de la SMBS là, qui ont été publiées en 2020. La chirurgie devrait être faite dans des centres avec une bonne expertise quand même et un haut volume. Je crois que c'est aussi l'idée du rapport du groupe de travail en chirurgie de l'obésité là, du MSS qui va être suggéré au ministre. Plus, il faut quand même considérer que les centres retenus pour la chirurgie bariatrique devraient être en mesure d'offrir un soutien psychologique pour les désordres alimentaires, les troubles psychologiques et sociaux. Et ça, c'est avant et après la chirurgie bariatrique. C'est essentiel pour nos patients qui sont plus vulnérables. De plus, les patients qui sont opérés là, devraient avoir un suivi à long terme pour être capables de dépister et traiter le regain de poids associé avec certains types de chirurgie bariatrique comme la sleeve. Puis, on devrait dépister à long cours, au long cours, là, la réapparition du diabète et des complications de la chirurgie bariatrique, entre autres comme l'hypoglycémie post-opératoire.
D'où l'idée du MSS de faire un groupe de travail pour bien encadrer la chirurgie bariatrique. Maintenant, quel est l'impact de la chirurgie bariatrique sur le contrôle glycémique?
Donc, des études randomisées contrôlées là, qui ont comparé la diète à la sleeve puis à la Y de roue ont démontré qu'avec la sleeve, on était capable là, de diminuer l'HbA1c en bas de 6 %. Donc, on parle de rémission du diabète dans 23 % des patients diabétiques qui ont eu la sleeve après 5 ans. Puis avec la Y de roue, qui est une chirurgie métabolique, donc un peu plus intense avec de la malabsorption, on était capable d'entrer en rémission dans 29 % des cas après 5 ans de la chirurgie. La réapparition du diabète va souvent survenir là, dans 50 % des cas initialement qui sont en rémission, puis ça va survenir généralement après 8 ans suivant la chirurgie. Malgré tout, on retient qu'un gros pourcentage des patients qui sont opérés avec un diabète là, vont avoir une amélioration robuste de l'HbA1c, une diminution du nombre de médicaments, un arrêt de l'insuline, et ça se maintient jusqu'à 15 ans après les interventions.
Il y a quelques années, on discutait beaucoup à l'ADA, puis j'ai vu le pour puis le contre en direct, des discussions enflammées sur la sécurité de la chirurgie bariatrique comparativement au traitement médical seul. Je pense qu'on a des données qui sont rassurantes de ce sujet-là.
Ah oui, tout à fait. La mortalité péri- et post-opératoire de la chirurgie bariatrique a beaucoup changé. On est pas mal plus dans l'ordre de 0,1 à 0,5 % là, de nos jours, ce qui se compare avec l'ensemble des autres procédures abdominales. Il faut quand même garder en tête que les complications à long terme là, de la chirurgie bariatrique sont de l'ordre de 5 à 15 %. Généralement, ça va tourner autour de déficits en protéines et en vitamines. Il faut aussi quand même mentionner l'hypoglycémie post-opératoire qui est plus fréquente chez les diabétiques puis qui va se retrouver dans 5 % des patients qui ont eu des chirurgies malabsorptives, particulièrement la Y de Roux. Dans le cas de la sleeve, des chirurgies restrictives, on est dans moins de 1 % des cas, là, donc c'est peu fréquent.
Auparavant, les chirurgiens confondaient tout. On parlait de dumping syndrome, on parlait que c'était pas des vraies hypoglycémies, mais il existe des vraies hypoglycémies avec des conséquences cliniques. Que propose l'ADA pour la prévention très rapidement des hypoglycémies en post-chirurgie bariatrique?
Oui, donc l'ADA se positionne d'abord avec en faveur d'un traitement conservateur, c'est-à-dire des repas nutritionnels qui sont plus petits, plus chargés en protéines, plus faibles en glucides et plus fréquents. On veut diminuer l'absorption rapide des repas là, qui contiennent des lipides et des glucides. Au niveau des traitements, nous, on va y aller avec de la carbose généralement, ce qui est recommandé par l'ADA. On peut aussi ajouter le diaxocide et parfois là, du sandostatin en injection, qui ont quand même fait leur preuve. Quelques études avec l'avexitinide, là, entre autres en Europe, mais c'est pas encore recommandé par l'ADA pour le traitement de l'hypoglycémie post-opératoire.
Je vais terminer cette entrevue en demandant à nos auditeurs de consulter la table 8.1 du chapitre 8 portant sur les effets secondaires du traitement en obésité. Qu'est-ce que pense l'ADA sur le risque de pancréatite et de cholécystite et des accidents biliaires avec les agonistes des GLP-1 qui sont quand même notre cheval de travail maintenant en obésité et diabète?
Oui, tout à fait. Ben, faut comprendre que, en ce qui a trait aux accidents biliaires puis aux cholécystites qui sont induites par ces accidents-là, ça découle, là, des effets secondaires qu'on retrouve avec n'importe quelle thérapie intensive en perte de poids, là. L'obésité est un facteur de risque pour faire des accidents biliaires et une perte de poids rapide également. Donc, ça se compare à ce qu'on retrouverait avec la chirurgie bariatrique. Faut en discuter avec les patients. En ce qui a trait à pancréatite, ben, on a longtemps pensé que les agonistes de récepteurs du GLP-1 surstimulaient les cellules pancréatiques exocrines, puis c'est ça qui induisait l'inflammation dans le pancréas. Et qui mettait à risque non seulement de pancréatite, mais aussi de cancer du pancréas. On a quand même dans la littérature de nombreuses méta-analyses là, puis qui ont inclus des études de phase 4, des real-life data, qui n'ont pas été capables de mettre en évidence là, une association directe entre les agonistes du GLP-1 puis une augmentation de la fréquence des pancréatites ou du cancer du pancréas. Rien qui serait supérieur, en tout cas, à ce qu'on retrouve dans la population diabétique usuelle. Donc, j'ai très peu d'inquiétude de ce côté-là.
Qu'est-ce qu'il y en est maintenant du risque de suicide avec le combo naltrexone-bupropion?
Oui, c'est encore une peur qui est fréquente dans la population générale, entre autres en raison du bupropion. Faut comprendre que le mécanisme du bupropion, là, il agit comme inhibiteur de la recapture de la dopamine puis de la noradrénaline. Donc, ça, ce que ça fait, en fait, c'est que ça va moduler l'humeur, ça réduit l'anxiété, ça module les trajets neuronaux du système de récompense, qui est souvent à l'origine du problème de binge eating ou de suralimentation chez nos patients qui sont en hyperphagie. Mais le bupropion est aussi un agent qui augmente la motivation. Donc, on a plusieurs études psychiatriques qui ont montré que le bupropion augmentait le passage à l'acte chez des gens, surtout des adolescents, des jeunes adultes en bas de 25 ans qui avaient des idées suicidaires à la base. Donc, je pense que les études CORE qui regardaient l'association bupropion-naltrexone sont rassurantes en ce sens. Il n'y avait pas d'augmentation des idées suicidaires ni de passage à l'acte chez notre population avec obésité adulte âgée. Il faut quand même faire preuve de prudence, je pense, là, mais c'est plutôt un passage à l'acte chez des gens qui auraient des idées suicidaires préalables, surtout en jeune âge.
Deux petites vites pour terminer. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire du risque rénal avec les agonistes de la GLP-1? C'est paradoxal de poser la question parce qu'on vient de démontrer que l'Ozempic diminue les complications rénales dans la néphropathie diabétique avec proténurie.
Oui, donc en ce moment, l'ADA recommande de quand même choisir les agonistes du GLP-1 et même des favoriser chez des patients qui ont une insuffisance rénale avec un DFG en bas de 30 en raison de la tolérabilité de cette médication-là puis du faible risque d'hypoglycémie. Ça, c'est des recommandations de classe B. Maintenant, on recommande quand même de les arrêter ou de ne pas les utiliser si le DFG est en bas de 15, faute d'études là, probantes. Il y a quand même plusieurs études qui sont intéressées aux effets secondaires chez les patients qui ont des DFG qui varient entre 15 et 50. Et chez les insuffisants rénales, la tolérabilité des agonistes du GLP-1 est équivalente à la population générale.
Il faut quand même faire attention au début. Si le patient a des nausées, des vomissements et déshydraté, ben, il peut faire de l'insuffisance prérénale. Parlez-nous maintenant des recommandations de la contraception et le nouveau médicament, la tirzépatide.
Oui, tout à fait. Ben, c'est des médicaments qui font perdre du poids, donc qui induisent aussi un meilleur contrôle du diabète chez des femmes en âge de procréer. On le sait que ça diminue l'insulinorésistance, l'inflammation systémique et que ça augmente la fertilité. Donc, c'est important de discuter de contraception avec les femmes en âge de procréer parce que c'est des médicaments qui ne sont pas recommandés en grossesse. On recommande de les arrêter environ 2 mois avant la conception. Ceci dit, en 2024, il y a eu des études en février là, chez des patientes qui étaient sous agonistes du GLP-1 dans le premier trimestre. trimestre. On n'a pas vu d'effet tératogène là, plus que chez une patiente diabétique normale, mais gardez en tête qu'il faut les arrêter 2 mois avec la conception, donc c'est contraception là, pour les patients qui sont activement traités.
Alors, merci Fanny. Voici ce qui conclut ce balado. Les balados sont produits par Cœur Poumon avec un S.ca et se retrouvent sur la plateforme de Cœur Poumon. Et la semaine dernière, nous avions parlé avec Thierry Godette, kinésiologue, des recommandations de l'exercice en diabète. Merci de votre écoute attentive. Je suis Dr. Claude Garceau de l'UCPQ. À la semaine prochaine.